Hachem envoie Moshe, il lui dit Boel Paro, il l'envoie chez Paro, et il lui dit tu vas aller là-bas parce que Ichbad Tiet Libo Bet Levavadab, j'ai donné du poids, c'est-à-dire je lui ai donné une résistance. Lui et ses serviteurs, je leur ai donné de quoi résister à ces makotes, résister à ces coups auxquels on ne peut pas normalement résister. Paro, vu la force des makotes, il aurait dû céder. Et il aurait cédé. Mais Hachem ne voulait pas qu'il cède si rapidement. Hachem dit, Leman shiti ototai ele bekirbo. Je lui donne de quoi résister pour que je puisse déployer d'une certaine manière tous mes signes, toutes mes makotes, toute ma toute puissance au sein même de l'Égypte. Donc il y a une fonction des makotes. Ce ne sont pas des makotes qui ont pour but de faire céder Paro. Au tout début, quand Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu chez Paro, Hachem a fait dire à Moshe, tu lui diras que s'il ne cède pas, s'il ne renvoie pas mon Bechor, s'il ne renvoie pas Israël que je considère comme mon premier-né, je tuerai ses premiers-nés. Donc tout de suite, cette plaie-là, cette dixième plaie, elle est annoncée déjà à Paro. Mais Hachem n'a pas du tout appliqué cette plaie immédiatement. Parce que la fonction de la plaie, c'était pas faire plier Paro, c'était facile de faire plier Paro. Mais Hachem veut autre chose. Il veut montrer sa toute puissance à l'Égypte, qui est la puissance dominante. Et il va donc déployer les 10 makotes, les 10 plaies, 3 x 3 plus 1. L'une, c'est la décisive, c'est Makat Bechorot, c'est la mort des premiers-nés. Et 3 x 3, parce que à chaque fois qu'il y en a 3, en fait, c'est une manifestation d'Hachem sur terre, sur mer et dans les airs. Et c'est toujours construit de la même manière. Les 2 premières plaies, à chaque fois, sont données avec un avertissement, et la 3e est donnée sans avertissement. Donc, il en reste 3. En vérité, il en reste 2 plus 1. D'accord? D'après ce qu'on a expliqué. Et donc Hachem lui dit, voilà, comme je veux aller jusqu'au bout de ma démonstration, j'ai donné à Paro et à ses serviteurs la force de résister. Mais c'est pas seulement ça. Le pasouk suivant, il dit la suite de ce qu'Hachem a dit à Moshe. Et également, donc ça c'est, je t'ai dit d'abord ce qui concerne l'Égypte, et maintenant, le man, afin que, donc, je lui ai donné de la force pour qu'il résiste aux plaies que je vais lui donner aussi. Le man te s'appelle pour que tu racontes. Beozne vincha ou ben vincha, aux oreilles de ton fils, de ton petit-fils, et ta chair est à l'alti bemitzraïm. Tu vas raconter comme je me suis moqué de l'Égypte. Tu raconteras, et tototai, tu raconteras les signes que j'ai manifestés en Égypte, sur Samtivam, vidatem, et vous, les Bnei Israël, vous qui raconterez cela, vous saurez, Vidatem, qui a ni Hachem, que je suis Hachem. Qui a ni Hachem, bonsoir. Qui a ni Hachem, ça veut dire, comme Rachid nous l'a déjà dit, a ni Hachem, ça veut dire on peut me faire confiance, je suis fiable. Si je dis que quelque chose va arriver, ça va arriver. S'il y a une récompense annoncée, il y aura récompense. S'il y a une sanction d'annoncer, il y aura une sanction. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que il ne s'agit pas du tout ici de raconter un événement qui a eu lieu. En général, quand on raconte une guerre, on raconte un événement quelconque, l'événement a eu lieu, puis ensuite, bon, il y a quelqu'un qui raconte l'événement, qui aurait pu ne pas le raconter, peu importe, mais il décide de... quelqu'un raconte l'événement. Ici, c'est à l'envers. Ici, l'événement a lieu pour être raconté. Il ne s'agit pas du récit d'un événement qui aurait sa raison d'être pour soi-même. L'événement, il n'a pas lieu parce qu'il a, en ce qui concerne les Bnei Israël, parce qu'il a besoin d'avoir lieu en quelque sorte. Pour les Bnei Israël, il n'est là que pour être raconté. Et ce qui est à raconter, d'après ce passouk, c'est que Hachem s'est moqué de l'Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte, pendant tout un temps, pensait que c'était elle qui dirigeait les affaires. Et je les ai laissés croire. Quand ils faisaient souffrir les Bnei Israël, ils pensaient, nous, Égyptiens, nous sommes maintenant les maîtres du jeu. Nous faisons souffrir les Bnei Israël parce que nous le voulons. C'est nous qui sommes les maîtres. Et Hachem va leur montrer qu'en réalité, même dans cette partie-là, c'est Hachem qui dirigeait la partie. Nous, on doit comprendre pourquoi Hachem voulait que les Bnei Israël souffrent, etc. Pourquoi ? Mais tout ça, c'est un projet divin. Et Hachem dit, vous allez raconter cela. Et c'est intéressant parce que on va raconter, ici on ne nous dit pas du tout... Vous raconterez ici, c'est pas encore dit, vous raconterez la sortie d'Égypte. Marquez, vous raconterez comme je me suis moqué de l'Égypte. Il y a donc un récit, une partie du récit, qu'on va faire le soir du Seder, qui est un récit de montrer comment Hachem a dirigé toute cette affaire. Et pour les Bnei Israël, c'est ça l'essentiel. Ça veut dire que c'est tellement important, si vous voulez, que le monde a changé. Le monde, il a été modifié pour que les Bnei Israël puissent faire ce récit. Le monde est modifié, c'est-à-dire il y a des makotes, il y a des plaies, l'Égypte est frappée, avec des choses absolument énormes, pour qu'on raconte. Pour que les Bnei Israël racontent. Alors, le récit, on va voir après qu'il y aura une extension de ce récit-là. Le récit, ça va devenir le récit de la sortie d'Égypte. On va en raconter un peu plus que Italalti Bemitzraim. Notre Emouna, elle est construite sur la sortie d'Égypte. On n'arrête pas de répéter 49 fois, enfin, un nombre incroyable de fois. On n'arrête pas de répéter cette idée que nous sommes sortis d'Égypte. Ça, c'est absolument fondamental. La sortie d'Égypte, elle va évidemment inclure Matan Torah, parce qu'on n'est pas sorti d'Égypte pour être libre. On est sorti d'Égypte pour être libre d'accepter la Torah. Ou plus exactement, d'accepter la Torah qui va nous rendre vraiment libres. C'est-à-dire que notre émouna, elle n'est pas notre confiance en Hachem, elle ne se construit pas du fait qu'Hachem est le créateur du monde. Quand Hachem, dans les Aseret HaDibrot, va se présenter au Bnei Israël, il ne dit pas à Anochi, je suis le créateur du monde. Il dit, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. On pourrait dire, ben, se présenter comme le créateur du monde, ça aurait été beaucoup plus impressionnant. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hachem se présente au Bnei Israël en disant, C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Les Bnei Israël ont vu effectivement ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont vu tous les miracles. Et donc, ils vont pouvoir raconter. Et de ce récit-là, vidatem, vous saurez qui a ni Hachem. Ce savoir, c'est notre émouna. Savoir que Hachem, qui a ni Hachem, c'est le fondement de notre émouna. Donc Hachem dit, je me suis moqué de l'Égypte. C'est-à-dire, d'une certaine manière, Paro est devenu un pantin. N'est-ce pas, je lui envoie une maca, c'est insupportable, alors il supplie, il dit, Khatati, on va voir, j'ai fauté contre vous, j'ai fauté contre votre Dieu, etc. Priez pour moi, mais demandez à Hachem qu'il enlève cette maca. Et puis, tout de suite après, on lui enlève la maca, tout de suite après, hop, changé. Non, je ne laisserai pas partir les Bnei Israël. Un vrai pantin. Comment il peut dire ça? Parce qu'Hachem l'a aidé à dire, puisqu'Hachem l'a renforcé, il lui a permis de ne pas céder à la maca. Bien. Alors, sur l'ordre d'Hachem, Moshe et Aaron vont chez Paro. Vous vous souvenez, s'ils vont à deux, parce que Moshe ne peut pas parler directement à Paro. La parole de Moshe n'est pas audible pour Paro. C'est pas celui par l'organe duquel la parole divine va passer, il ne parle pas comme Monsieur Tout le Monde. Et sa parole n'est pas audible pour Paro, elle est audible pour Aaron. Et Aaron, lui, peut parler une langue que Paro peut entendre. Donc ils vont chez Paro, ils lui disent, « Kohamar Hashem Elokei Ivrim, ainsi parle Hashem, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser ?» Je t'ai donné des ordres, tu refuses. J'ai dit que tu devais laisser partir mon peuple pour qu'il puisse me servir. Alors, si tu refuses encore, alors demain, je t'envoie les sauterelles. Et ces sauterelles, elles vont bouffer tout ce que la grêle n'avait pas détruit. Il y a en ce moment un énorme essaim un nuage de sauterelles qui est grand comme, je ne sais pas quoi, qu'on dit comme le Luxembourg, je ne sais pas quoi, au-dessus du Soudan, c'est absolument terrible. Ils bouffent tout. Pardon ? On fait ce qu'on peut pour... Alors... Il va y avoir des sauterelles comme il n'y en a jamais eu. Il y en aura partout, dans tes maisons, dans tout, partout. Alors, les serviteurs de Paro, donc la cour de Paro probablement, ils lui disent « Admatai, Yezelanu le Mokesh ?» Jusqu'à quand est-ce qu'on va avoir ça dans les... comme obstacle ?« Shlach et ha'anashim, envoie-les, vi'avdu et Hashem Elokeem, aterem teda ki avda mitzrayim, tu n'as pas encore compris que l'Égypte est perdue. Les serviteurs de Paro, les serviteurs lui disent, il y en a marre, cède. Il lui avait déjà dit, les Khartoumim, les magiciens lui avaient déjà dit au moment de la vermine, bien avant, il lui avait dit, ce que Moshe et Aaron font là, c'est pas de la magie. Parce que nous, on est les spécialistes de la magie. Et pour la magie, il y a des règles. Et une des règles, c'est que ce sur quoi porte la magie doit avoir un certain volume. Et cette vermine-là, c'est trop petit. Donc, ça n'est pas de la magie. Et nous, on sait. C'est nous les spécialistes de la magie. Donc, si on te dit que c'est pas de la magie, alors tu sais, il n'y a pas d'autre explication. Ils appellent ça Etzba Elohim. Ils disent c'est l'index d'Hachem. Alors, écrase-toi. Réponds oui. Enfin, fais ce qu'on te demande. Mais Paro n'a jamais écouté, même ses proches conseillers. Et là, les gens, ils lui disent, jusqu'à quand? Est-ce que tu n'as pas compris encore que l'Égypte est perdue? Alors Paro appelle Moshe et Aaron. Et il leur dit, allez servir votre Dieu. Qui est-ce qui va? Il recommence tout le temps la même chose. On l'a déjà dit 20 fois que tout le monde y allait. Et Yomer Moshe, alors Moshe Rabbeinu lui répond, Vinareinu, Biskeneinu, Neler, avec les jeunes, avec les vieux, avec les filles, les garçons, avec notre petit bétail, le gros bétail. C'est une fête pour Hachem. Donc, on embarque tout. Alors il leur dit, Vayomer alehem, Yeichen, Hashem imachem. Ok, qu'Hashem soit avec vous. Je vais vous renvoyer, vous et vos enfants. Il parle déjà pas des troupeaux. Mais Rehu, regardez. Ra'a neged pnechem. Regardez. Vous avez Ra'a. Ra'a, c'est la planète rouge. En face de vous, en fait. D'accord. Rashi va expliquer, à partir d'un midrash, qu'en fait, astrologiquement, ils ont la mort dans leur horoscope. Dans leur thème astral, il y a la mort. On connaît ça. Pas nouveau. Nimrod a dit la même chose à Abraham. Quand Abraham a dit à Nimrod qu'il allait devenir un grand peuple, etc., Nimrod, il a doucement rigolé. Il lui a dit, regarde ton thème astral. Tu n'auras même pas d'enfant. Tu parles de devenir un peuple. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Abraham s'appelait Avram. On est avant la Mila et avant le changement de nom d'Abraham. Et Hachem dit à Avram à ce moment-là, il lui dit, c'est vrai, Avram il ne peut pas avoir de descendance, donc Avram ne peut pas devenir un grand peuple. C'est pas possible. Astrologiquement, c'est pas possible, ça veut dire, c'est vrai, les astrologues, ce qu'ils disent, c'est vrai. Il ne peut pas devenir un grand peuple. Mais ce thème astral qui est le tien, tu peux le modifier. Tu peux sortir de ce thème astral. Comment? Nous, avec notre langage aujourd'hui, on dira grâce à la Torah. La Torah, elle est au-dessus de ces contingences-là. Et en adhérant à la Torah, on peut sortir de cette détermination. Alors, pour Abraham, ça voulait dire faire la Mila et changer de nom. Il va changer de nom et il va être capable de mettre en marche ce processus qui va produire le peuple juif. Mais l'argument de Nimrod, c'était « Regarde ton thème astral, tu as la planète rouge. Hein. » Là, c'est la même chose. Parodie, les astrologues égyptiens, ils disent la même chose que ce que les Chaldéens ont dit au temps d'Abraham, à Abraham. Ils disent à Moshe Rabbeinu, le peuple, il a cette planète qui indique la mort dans son thème astral. Donc, vous n'irez pas loin. Donc, à la limite, c'est un vrai bienfaiteur de l'humanité, ce paro. Dis-le, envoyez seulement les hommes, parce que les femmes et les enfants, ils vont mourir. Il faut être beaucoup plus fort. Et il a renvoyé Moshe. Bon, alors Hachem a dit à Moshe, voilà, tu vas étendre ta main, etc. Et on amène les sauterelles. Il y a une espèce de vent qui amène tous ces nuages de sauterelles. Et les sauterelles bouffent tout ce qui restait. À ce moment-là, au verset 16, « Vaimaer paro likro le Moshe ou la Aaron. » Paro s'est dépêché d'appeler Moshe et Aaron, et il dit, « Écoutez-le, tzadik. Ratati l'Hashem elokechem velachem. J'ai fauté contre votre Dieu et contre vous. Et maintenant, ça n'a khatati. Et maintenant, pardonnez-moi, encore une fois. Veha'atiru l'Hashem elokechem. Et priez Hashem votre Dieu. Et qu'il enlève cette mort, c'est-à-dire ces sauterelles-là. Moshe a quitté Paro. En fait, il est sorti de la ville parce que... Et il a prié Hachem. Hachem a envoyé un autre vent qui a pris le nuage de sauterelles et l'a noyé. Mais Hachem a renforcé le cœur de Paro et il n'a pas renvoyé les Bnei Israël. Alors, je vous ai dit, il y en a deux avec avertissement. Il y en avait déjà eu la semaine dernière. Voilà le deuxième. Les sauterelles, c'est avec avertissement. Le troisième, c'est sans avertissement. Et le troisième, c'est Rochère. Le troisième, c'est les ténèbres. Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu d'étendre sa main et vers le ciel, les ténèbres s'installent. Alors, le passage dit, non seulement on ne se voyait pas, bon, c'est assez classique dans les ténèbres, mais velo kamu ishtartav, mais celui qui était assis ne pouvait pas se lever. On peut voir les choses comme on décrit ce qui s'est passé à Pompéi, quand la lave a figé les gens dans la position dans laquelle ils étaient. Celui qui était resté comme ça, il est resté comme ça. Ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se lever, ceux qui étaient debout ne pouvaient pas s'asseoir. Mais bien entendu, du côté des Bnei Israël, à Goshen, il faisait clair. Parce que toujours important, on l'avait déjà vu avec les troupeaux, avec la peste des troupeaux, de bien faire apparaître la différence entre Israël, entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Alors Paro a appelé Moshe, il a dit, allez servir Hachem, mais pas les troupeaux. Vous pouvez même prendre vos enfants, mais pas les troupeaux. Alors Moshe lui dit, non seulement on va prendre les troupeaux, mais toi-même tu vas nous donner du bétail qu'on va apporter comme korbanot. Ok. On a enlevé les ténèbres. Nous savez, pendant les ténèbres, on y reviendra, mais pendant les ténèbres, il y a un Hazal qui dit que vous savez bien que quand Hachem a proposé au Bnei Israël de sortir de Mitzrayim, la réponse était non, à 80%. Il y a 80% des Bnei Israël qui ont dit on ne sort pas. 80% qui étaient tellement assimilés qu'il n'était pas question pour eux de sortir d'Égypte. Peut-être pas seulement l'assimilation, mais c'était impressionnant. Sortir d'Égypte, c'est pour aller où exactement? Il n'y avait pas de sortie d'Égypte. L'Égypte, c'est, ça s'appelle Mitzrayim, c'est étroit. C'est en gros la vallée du Nil. Et de part et d'autre, c'est le désert. Sortir de cette vallée du Nil, ça veut dire arriver dans le désert. Qu'est-ce qu'un peuple va faire dans le désert? On n'est pas un peuple habitué à vivre, on n'est pas les Touaregs ou qui sont habitués à vivre dans le désert. Les Israël, ils sont complètement perdus s'ils sont dans le désert. Donc, si vous voulez, il fallait vraiment faire confiance. Une confiance presque, pratiquement aveugle. Aveugle au sens où on ne sait pas où on va. On ne connaît pas les conditions dans lesquelles on va se trouver. Les Bnei Israël ont fait confiance à 20%, à 80% non. Les 80%, ils ont a priori disparu pendant Rocher, parce qu'il fallait qu'ils disparaissent complètement. Déjà comme ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais parce que si les Égyptiens avaient vu toute cette mort, tous ces morts, ben, ils auraient compris qu'il n'y a rien à craindre, ça veut dire. En fait, ils partent pas vraiment, il n'y a que 20% qui s'en vont. Que je ne sais pas exactement comment me représenter les choses, c'est impossible de penser que les Égyptiens n'ont pas remarqué que 80% des gens n'étaient plus là. Bon, 80% des gens, c'est beaucoup. D'accord. Alors même s'ils vont sortir, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait 80% des gens qui n'étaient plus là. Comme des maisons qui devaient être vides. Bon, ça, je ne sais pas répondre à ça. Alors, Paro a appelé Moshe. Il avait été son cœur de nouveau fortifié et tout. Il refuse. Et il dit à Moshe, « Lech me'alai, va-t'en de moi. Et ishamer lecha, prends bien garde à toi. » Ne revois plus mon visage. Qui veut yom, parce que le jour où tu verras mon voyage, mon visage, tu mourras. C'est intéressant de voir Paro qui parle comme ça. Le Midrash dit que quand Moshe est arrivé la première fois et qu'il a menacé Paro, il a fait un signe à sa garde rapprochée, coupez-lui la tête à celui-là. Mais ils n'ont pas réussi. Hachem a protégé Moshe. Donc il sait très bien qu'il n'arrivera pas à le tuer. Ça fait 9 plaies qu'il a déjà essayé de le tuer et que ça ne marche pas. Si tu vois, je vais te tuer. C'est vraiment des paroles en l'air. Mais il lui a dit, ok. Alors Moshe a dit, oui, d'accord, c'est bon, tu as bien parlé. Moi, je ne viendrai plus voir ton visage. Certains disent que, comme vous savez bien, qu'il va y avoir la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés en Égypte, et à ce moment-là, Paro va rechercher Moshe, et donc a priori il va voir Moshe, Moshe va le voir. Alors là, bon, on va s'en tirer en disant, il m'a dit, c'est pas... Il a dit, Paro a dit, toi tu dois pas venir voir mon visage, mais si c'est moi qui vais te chercher. Mais il y en a qui disent que, en vérité, Paro il cherchait Moshe, mais il a envoyé toutes sortes de gens, et les gens qui ont, et ce sont d'autres gens qui sont arrivés chez Moshe, toujours porteurs des messages de la puissance de Paro, mais Paro lui-même il n'a pas vu Moshe. Bon, alors là on est presque au dénouement, et tout à coup arrive quelque chose d'assez incongru. Regardez le texte. Chapitre 11. Vayomer Hashem el Moshe, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, « Od nega echad » Il y a encore une plaie que je vais envoyer sur l'Égypte. Et après ça, il va vous renvoyer. Ok, ça c'est normal. Mais il lui dit, Hachem demande tout à coup quelque chose à Moshe Rabbeinu, il lui dit, « Daber na, s'il te plaît, parle. Be'ozne ha'am. Parle aux oreilles du peuple. Vishalu ish metre'eu, qu'un homme emprunte chez son prochain, et une femme chez sa prochaine, klechesev klezahav, des kelim, donc des ustensiles, enfin de l'or et de l'argent, en quelque sorte. Et Hachem a fait en sorte que les Égyptiens étaient en très bon terme avec les Bnei Israël, et que même Moshe était gadol me'od beretz Yitzrayim b'nei avdei paro b'nei ha'am. Parce que les Égyptiens, ils ont bien compris depuis longtemps que ce qui leur arrivait n'était pas le fait du méchant Moshe, mais de ce que Paro ne voulait pas obéir, et que on lui avait déjà fait des démonstrations, les Khartoumim, les magiciens lui avaient dit de céder, la cour lui a dit de céder, tout le monde lui a dit de céder, il ne cède pas. Les gens savaient très bien que c'est à cause de Paro qu'il leur arrive tous ces malheurs. Et donc, Moshe, il était même bien vu, les Bnei Israël étaient bien vus, et donc, ils ont pu emprunter des kélim aux Égyptiens, c'est-à-dire de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ce souci-là? Ils n'avaient pas assez de marmites, qu'est-ce qu'il leur fallait? Ils ne pouvaient pas aller dans la prochaine bijouterie, acheter un peu d'argent et d'argenterie et tout. Non. Pour l'emprunter chez les Égyptiens. Et les Égyptiens qui avaient de l'or et de l'argent, c'était pas le bas peuple, probablement. Les fellahs égyptiens, ils ne devaient pas avoir tellement de kélim en or et en argent. Donc c'est la crème de la société qui devait avoir des ustensiles en or et en argent. Et c'est donc auprès d'eux qu'ils ont emprunté. Pourquoi ils ont emprunté? Alors, Rashi nous explique. Vous avez remarqué quand même que quand Hachem parle à Moshe, il lui dit « Daber na ». Nun alef na, ça veut dire « s'il te plaît ». Je te prie, s'il te plaît, parle-leur. Donc Hachem est extrêmement demandeur ici. Pourquoi il est demandeur? Alors il explique. Finalement, toute cette histoire égyptienne, c'est quoi? C'est la réalisation d'une promesse qui a été faite par Hachem à Abraham Avinu. Pour mémoire, je vous rappelle, il y a un Midrash qui dit que quand Abraham Avinu a envisagé de devenir un peuple, si vous voulez, Hachem lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour ton peuple? Est-ce que tu préfères la mort ou l'exil ?» Quoi, le peste ou le choléra? Non. La mort ou l'exil? Ça veut dire quoi? Je crois que ça veut dire la chose suivante. Est-ce que tu veux que ton peuple soit un peuple comme les autres? C'est-à-dire comme Babel, les Perses, les Mèdes, les Grecs, etc. Un peuple qui va grandir, puis ensuite qui va retomber, et qui va mourir, qui va disparaître. La mort, ça veut dire, est-ce que tu veux que ton peuple ait une trajectoire normale, que ce soit un peuple comme les autres, en d'autres termes? Ou est-ce que tu veux plutôt que les Bnei Israël, au lieu de l'expérience de la mort, enfin, de vivre avec cette mort, évidemment qui est une mort à l'horizon, est-ce que tu ne préfères pas plutôt que ton peuple expérimente une forme faible de mort, qui est l'exil. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir, le peuple va être exilé. Mais l'exil, ça dure un certain temps, puis ensuite, on revient. Parce que si c'est pour mourir en exil, c'est de nouveau la mort. Donc il faut imaginer l'exil, mais qu'il ne soit pas un exil suivi de mort. Donc, et Avraham Avinu a choisi l'exil. Et donc, il y avait une promesse, et la promesse, elle a été faite dans les termes suivants. Voilà, tes descendants, ils seront esclaves, exilés, dans un pays qui ne sera pas le leur, on va les faire un peu souffrir. Le mot qui dit la souffrance, c'est inouï, c'est le même mot que celui qui parle des cinq inouïs, des cinq souffrances de Yom Kippour, pas boire, pas manger, etc. Donc ce n'est pas des souffrances, ce n'est pas de la torture. Et puis ensuite, après cela, de cet exil-là, ils sortiront en birchush gadol. Ils sortiront avec un énorme butin. Alors dit Hachem à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, ils vont dire que la première partie de ma promesse, à savoir l'exil, la souffrance, etc., Hachem s'est débrouillé pour que ça arrive. Mais la deuxième partie, qui est la promesse, on va recevoir, on va sortir avec un grand butin, on a les mains vides, on n'a rien. Et donc Hachem dit à Moshe, dis aux Bnei Israël qu'ils empruntent de l'or et de l'argent. C'est bien joli, ils vont emprunter l'or et l'argent, comme ça ils vont le garder un peu chez eux. Et c'est ça le grand butin? Vous avez bien compris que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'emprunter, puis ensuite, on part. Et on ne rend pas. Et alors ça, c'est vraiment un peu difficile. D'accord? Je ne sais pas comment vous vous sentez. Je ne me sens pas très fier comme ça. D'accord? Que la promesse d'Hachem se réalise avec un mensonge pareil. On peut appeler ça du vol, on peut appeler ça comme vous voulez, mais enfin, ce n'est pas glorieux. C'est la promesse d'Hachem qui va se réaliser comme ça. Alors, je vous raconte la suite de l'affaire, mais vous verrez que la question, elle va rester. Et vous rentrerez chez vous avec la question, je vous assure. Au temps d'Alexandre le Grand, il avait conquis à peu près tout ce qu'on pouvait conquérir à son temps. Et donc tous les peuples sont venus exposer leurs problèmes devant Alexandre qui avait tous les pouvoirs. Arrivent les Égyptiens et ils disent à Alexandre, voilà, nous on voudrait saisir la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils nous ont emprunté de l'or et de l'argent et ils ne l'ont jamais rendu. Donc ça fait une dette, on a calculé, ça fait une dette faramineuse. Évidemment, les Juifs n'ont pas l'argent pour nous rendre, pour nous le donner, cet argent. Et par conséquent, nous demandons la saisie des biens des Bnei Israël, à savoir la terre d'Israël. Donc on vient chez toi, Alexandre, toi tu as le pouvoir, de saisir pour nous cette terre et nous la donner. Donc les Égyptiens, ils viennent, ils disent, on veut la terre d'Israël. Pourquoi? En paiement de ce que les Bnei Israël ont emprunté et n'ont jamais rendu. Alors Alexandre a convoqué les Juifs et il leur a dit, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ils ont dit, donne-nous 3 jours pour qu'on réfléchisse, on te donne notre réponse sous 3 jours. Et alors ils ont discuté entre eux, et la Gemara rapporte qu'il y a un jeune rabbe parmi eux qui a dit la chose suivante. Écoutez, laissez-moi aller négocier, je vais aller moi répondre, avec ce que je pense vouloir répondre. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, vous pourrez toujours dire, mais ce petit jeune là, il s'est autorisé de lui-même, Et donc, c'est pas lui, il n'a pas le droit de parler en notre nom, et vous direz à ce moment-là ce que vous voulez dire. Mais laissez-moi, éventuellement. Et les Chachamim ont été d'accord, ils l'ont laissé aller. Alors, il est allé chez Alexandre, et il a demandé aux Égyptiens, hein, sur quoi est-ce que vous vous basez pour nous demander cette somme faramineuse, et donc, pour dire qu'évidemment, cette somme-là, on ne peut pas vous la rendre, et donc, vous voulez la saisie de nos biens. Alors ils ont dit, ben nous on se base sur la Torah. C'est écrit dans la Torah. On vient de le lire. Alors il a dit, ah bon? Bon ben alors moi aussi je vais me baser sur la Torah. Puisque vous vous basez sur la Torah, moi aussi. Voilà la grande concession qu'il va leur faire. Et alors il leur dit, voilà, nous on a travaillé chez vous et vous ne nous avez jamais payé. Alors, on était un esclave 400 ans, c'est écrit dans la Torah, 400, et on était 600 000 hommes, etc. Et donc, 400 ans fois 600 000, je ne sais pas à combien était le point, etc. Non, ce n'est pas une retraite. C'est à combien était le SMIG à ce moment-là, ou le SMIG esclave. C'est pas, en tout cas, ça fait une somme bien plus grande que celle que les Égyptiens réclamaient. Et donc les Égyptiens sont partis. Bon, d'accord, il a donné une réponse. Mais la réponse non plus, elle n'est pas terrible, hein. Nous, on sait bien, c'est vrai que c'est marqué que l'exil devait durer 400 ans. Mais il n'a duré de facto que 210 ans. Et on n'a jamais été 600 000 durant tout l'exil. À la fin de cette explosion démographique, on était 600 000. Mais avant, on n'était pas 600 000. Donc la multiplication en question, alors je ne sais pas si la vraie multiplication aurait donné, pas le même résultat évidemment, mais aurait donné un résultat qui compensait la dette. Je suppose que si Hachem a donné ce conseil-là, c'est qu'il n'y a pas un problème de vol. Donc ça veut dire en tout cas que la vraie dette des Égyptiens pour le travail d'Ebné Israël est certainement à la hauteur, sinon plus, en tout cas à la hauteur de la dette qui résulte de l'emprunt de l'or et de l'argent. Au moins ce problème-là, on peut considérer qu'il est réglé. Ce n'est pas un problème de vol. D'accord, mais ce n'est pas un problème terrible. Ce n'est pas terrible de... Finalement, on a emprunté, puis ensuite, bon, ben alors, à la veille d'être condamné, ben on a dit, oui, on peut payer. On a payé comme ça. On a payé en disant, oui, mais ça correspondait au travail. En fait, ce qui se passe, c'est que les Égyptiens... Non, qu'est-ce que j'explique? Quand Abraham Avinu a accepté l'exil, il n'a pas accepté l'exil en Égypte. Il a accepté un exil. On ne savait pas où ça allait être. Pourquoi c'est arrivé en Égypte? On sait. C'est arrivé à cause de l'histoire entre Yehuda et Yosef. C'est pour ça qu'on est arrivé en Égypte. Il se trouve que l'Égypte, c'était l'endroit le plus pourri au monde. C'était la toute grande civilisation. C'est un peu comme l'Allemagne de Weimar. Vous aviez toutes les perversions possibles qui se faisaient ouvertement, etc., dans ce pays. Et puis, ils avaient le droit de les faire travailler. Ils n'avaient pas le droit de les torturer, de leur faire faire des travaux du genre « Vous allez être berger de bêtes sauvages, etc. » Des trucs impossibles. Pour ça, il n'était pas. Pour ça, certainement, il devait être payé. Effectivement, disons qu'ils avaient le droit. En plus, peut-être qu'ils sont traités comme des esclaves, mais n'étaient peut-être pas des esclaves. Ils devaient travailler comme des esclaves, mais ça ne veut pas encore dire qu'ils n'avaient pas le droit d'être payés. De toute manière, on sait très bien que ce problème d'esclavage en Égypte, je vous en ai déjà parlé souvent, l'esclavage d'Ebné Israël en Égypte, ne peut en aucun cas être considéré comme l'esclavage au sens grec du terme. D'accord ? Nous n'avons jamais été esclaves au sens grec du terme, et j'avais vu un article de Mme Nobécourt, qui est une spécialiste de l'Égypte, qui disait qu'il n'y avait jamais eu, elle voulait contester la Bible, elle disait qu'il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Elle a raison, probablement, il n'y a jamais eu d'esclaves. Au sens du mot esclave, c'est-à-dire au sens grec de l'esclave. Mais qu'il y ait eu des gens qui étaient tout en bas de l'échelle. Alors, je vais donner quelques éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre. Quand il y aura la mort des premiers-nés, la Torah, elle va dire que tous les premiers-nés vont être concernés. Depuis le prince héritier jusqu'au fils de l'esclave qui tourne la meule. D'accord ? Vous avez une femme qui tourne la meule. Elle a un enfant. Elle est esclave. Son enfant est esclave aussi. Il est premier-né. Lui va mourir aussi. Ça, c'est un scandale. Pourquoi lui, il meurt ? Qu'on fasse mourir, si vous voulez, ceux qui sont susceptibles de perpétuer le régime égyptien. Bon, le prince héritier, les nobles, enfin, etc., tous ceux qui... Mais lui, pourquoi ? Il est un esclave. Pourquoi il va mourir ? À cause de qui ? Pourquoi il devrait mourir ? Alors, une explication, il y a un midrash qui dit que les esclaves égyptiens, ceux qui étaient tout en bas de l'échelle, les travailleurs qui n'avaient quasiment aucun droit en Égypte, ils se sont engagés auprès de Paro à ne pas se révolter, à la condition que les Juifs soient en dessous d'eux. Si les Juifs sont plus bas que nous, on ne se révoltera pas. Et c'est pour cette raison-là que ces esclaves-là, eux aussi, vont être punis, c'est-à-dire eux aussi vont avoir leur premier-né qui vont mourir. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous savez bien que les Bnei Israël, qui étaient esclaves, avaient néanmoins des troupeaux. À Goshen, ils avaient des troupeaux. La preuve, la Torah, elle dit que quand il y a eu la peste du bétail en Égypte, aucun animal n'est mort dans les troupeaux des Bnei Israël à Goshen. Vous connaissez beaucoup d'esclaves qui ont des troupeaux, vous ? Vous ne connaissez pas beaucoup d'esclaves, alors. Bon, mais c'est... Donc, les esclaves en Égypte, ce n'était pas très clair. Les Juifs étaient esclaves. Pas très clair ce qu'ils étaient. Par conséquent, si vous voulez, cet esclavage, votre question c'était pourquoi ils seraient payés. Bon, peut-être qu'ils étaient aussi payés, j'en sais rien. De toute manière, ce n'était pas un esclavage au sens habituel du terme. Je voudrais ajouter quelque chose que je n'ai pas dit au chiour de la semaine dernière. C'est à sa place dans le chiour de la semaine dernière, mais il y a un Meshech Chochma. Meshech Chochma, c'est Meir Simcha de Dvinsk. C'est un des tout grands maîtres du début du XXe siècle. Il a écrit un commentaire de la Torah qui s'appelle Meshech Chochma, qui est un commentaire absolument extraordinaire. Et il a écrit un autre, il a des shiurim sur la Gemara, et aussi un ouvrage de commentaire du Rambam, qui s'appelle Or Samer. Il écrit, et il apporte des preuves, je vous dis ça, je vous la fais court, il dit qu'en réalité, il y a trois tribus, dans le cas Israël, qui non seulement n'étaient pas esclaves, mais avaient des esclaves. Les trois tribus en question, c'est Reuven, Shimon et Lévi. Alors, le Lévi, c'est connu. On sait que les Léviens n'étaient pas esclaves. Mais Reuven et Shimon, c'est beaucoup moins connu. Enfin, par moi, ce n'était pas connu. Mais bon, il argumente, il explique pourquoi qu'effectivement c'était comme ça. Et il donne une explication qui en soi est intéressante. Et je vous apporte là, je vous donne l'explication parce que ça vaut la peine. Yaakov Avinu, quand il a donné les brachot à ses fils, les brachot qu'il a donné à Reuven, Shimon, etc. Comme vous savez, il ne les a donnés que quasiment sur son lit de mort. Et sur le modèle de ce que Yaakov a fait, Moshe Rabbeinu aussi va attendre la dernière minute pour donner ses brachot au Bnei Israël. Et pourquoi cela? Parce que, bon, ça on l'a remarqué, quand Yaakov donne ce qu'on appelle les brachot, qu'est-ce qu'il dit à Reuven? À Reuven, il lui dit, à la limite, je t'enlève tout. Tu aurais dû être roi, tu aurais dû être Kohen Gadol, tu aurais dû avoir la double part, mais tu es tellement impulsif, tu es un danger public. Tu ne peux pas être ni roi, sinon on aurait des guerres à tout. Tu ne peux pas être Kohen Gadol non plus. Donc il lui enlève les choses. Shimon et Lévi, il dit, ceux-là, c'est des assassins. Ils ont tué Shrem, toute la ville. Et donc, en réalité, pourquoi Yaakov ne l'a pas donné avant, il n'a pas donné ça? Parce que, on explique que Yaakov, il s'est dit, avec ce que je leur dis là, si jamais je suis amené à les croiser, ça sera insupportable. Donc je vais leur dire quand ils ne me croiseront plus, c'est-à-dire okay, juste avant ma mort, je vais leur dire, ils ne seront pas dans une situation difficile. Et une explication qui va même dans le même sens, Yaakov Avinu craignait qu'avec tout ce qu'il a fait à Reuven, nous on a expliqué que ce qu'il a dit à Reuven, c'est une bracha dans la mesure où il lui a dit, tu ne dois pas faire ça et ça et ça. Parce que c'est mauvais pour toi et c'est mauvais pour le clan. Donc c'est une bonne chose de dire à quelqu'un où il doit aller ou où il ne doit pas aller. Mais néanmoins, c'est extrêmement frustrant. Et Yaakov Avinu craignait que Reuven y parte chez Esav. Il va faire l'association de ceux qui ont eu à souffrir à cause de Yaakov et qui ont perdu leur droit d'aînesse à cause de Yaakov. Yaakov a acheté le droit d'aînesse d'Esav, mais Esav après il dit, mais tu me l'as acheté, je ne savais même pas ce que c'était, etc. J'avais faim, donc. Donc Reuven, si Yaakov lui enlève ça, il va aller du côté de celui qui a souffert de la même manière que lui de Yaakov. Ça c'est ce qu'on explique d'ordinaire sur Yaakov. Ce que dit le Meshech Chochma, c'est à peu près la même chose. Il dit, avec ce que Yaakov a dit à ces trois tribus-là, s'ils étaient esclaves, en plus, comme tout le monde, probablement ils seraient partis s'assimiler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à rester juif? Enfin, qu'est-ce qu'on a à rester de ce côté-là de la barrière? On n'a que des ennuis, on n'a reçu que des mauvaises paroles de Yaakov. Donc on s'en va s'assimiler. On va partir chez. Et donc, mais là cette fois-ci c'est nouveau, c'est la Hashgacha qui a fait qu'ils n'ont pas été réduits en esclavage. Pour essayer de compenser en quelque sorte ce que Yaakov leur a fait. Et du coup, ils ont acheté des esclaves aux Égyptiens. Les Bnei Israël étaient esclaves des Égyptiens, les Égyptiens avaient donc des esclaves, et ils les ont vendus à Reuven, enfin aux gens de la tribu, à des gens dans les tribus de Reuven, Shimon et Lévi. Donc vous avez des Juifs qui sont eux aussi maîtres d'esclaves. Et pourquoi est-ce que
Pourquoi est-ce qu'on explique ça comme ça? C'est parce que, vous vous souvenez, Hachem a convoqué à Moshe et à Aaron, il leur a dit, deux points ouvrés les guillemets, je vous dis quelque chose qui concerne les Bnei Israël et qui concerne Paro, le roi d'Égypte, qu'il fasse sortir les Bnei Israël d'Égypte. Là, c'est le verset. Ce verset, quand vous le lisez, vous entendez que on parle aussi aux Bnei Israël en leur disant la même chose que ce qui est dit à Paro. D'accord? D'abord, Bnei Israël, Vel Paro Melech Mitzrayim, etc. Faites sortir les Bnei Israël. Donc, on a l'air de. Le fait de sortir des Bnei Israël d'Égypte, d'accord? C'est un facteur devant. Derrière. Les Bnei Israël et Paro. Donc on dit aussi aux Bnei Israël de faire sortir. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Rashi, il a fait un petit coup de force, parce que Rashi dit, tu parles aux Bnei Israël, il s'adresse à Moshe Aaron. En ce qui concerne les Bnei Israël, vous devez les gouverner benachat, doucement, sereinement, et vous devez les supporter. C'est-à-dire, ils sont insupportables, il faudra que vous les supportiez. Ça, c'est ce que Rashi. Il y a des Midrashim qui disent que les ministres sont insupportables, etc. Donc Rashi, il a pris ça, et il a interprété comme si le Passouk disait cela, disait quelque chose concernant les Bnei Israël qui n'a pas été écrit dans le texte. Par contre, ce qui est dit à Paro, ça a été écrit. Let my people go, ça va. Ok? Mais dans le texte, on a l'impression que le Let my people go, il concerne Paro, mais il concerne aussi les Bnei Israël. Et donc, si on lit comme le Meshech Chochma, ça va très bien. On parle à des Bnei Israël aussi, ceux qui ont des esclaves, libérez vos esclaves. Eux aussi sont concernés. Mais c'est un énorme chidouche. Je veux dire, je ne connais personne qui dise la même chose que le Meshech Chochma, mais ça prouve rien que je ne connaisse pas, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Il y a sûrement des gens qui doivent au moins prendre position par rapport au Meshech Chochma. Est-ce qu'on ne peut pas... Il y a des gens qui ont dû réagir, mais je ne sais pas qui. Je ne les ai pas vus. Si jamais vous voyez quelqu'un, dites-le-moi. Bon, alors... Ensuite, ce qu'il fallait... ce qu'il faut savoir, ça c'est concernant les Bnei Israël comme esclaves en Égypte. Ils sont sortis avec tout le monde. Après, c'était pas tous les gens de Jérouven qui avaient des esclaves, mais ceux qui avaient des esclaves, eh bien, ils sont sortis avec les autres aussi, mais ils ont d'abord dû libérer leurs frères.
À l'époque, on avait parlé de ça, vous aviez dit, au moment des brachot de Jacob, vous avez dit que pour Réouven, Shimon et Lévi, leur brachot, elle dépendait, elle est en attente, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc peut-être qu'ils ont fait tellement de shvach, Hachem justement, il les a pas...
Et d'abord, Moshe Rabbeinu n'a pas fait tellement de shvach. Des Shimon, il ne lui a même pas donné de bracha. Ah, bon. D'accord. Shimon, il n'a pas, d'après Moshe Rabbeinu, il n'a pas de territoire, Shimon. C'est Yehuda qui donne une partie de son territoire à Shimon. Et sur Reuven, il n'y a rien de spécial. Il a dit Yechi Reuven. Moshe Rabbeinu, il faut qu'il vive, Reuven, parce que quelque part, avec tout ce qu'on lui a mis, on est en train de le tuer d'une certaine manière, en suspens, qu'il vive, Yechi Reuven. Galiamus, c'est qu'il ne meurt pas. Mais c'est tout, je veux dire, bon, il l'a récupéré, il l'a remonté un peu, mais ils ont, en tout cas, au moment où ils ont reçu les brachot, les tribus, elle l'avait saumâtre, quoi. Donc, si pour résumer, je ne sais pas comment on peut être tout à fait à l'aise avec la façon dont la bracha, dont la promesse d'Hachem va se réaliser, en empruntant de l'or et de l'argent et n'en le rendant pas, même si après on montre que en réalité c'était à la hauteur de ce que les Égyptiens nous devaient au titre du travail qu'ils nous ont imposé, et qu'ils n'avaient pas le droit, à partir du travail qu'ils n'avaient pas le droit de nous imposer, ok, mais c'est... Parce que c'est quand même étrange, je veux dire. Non, ce qu'il dit, c'est que cette souffrance, elle a un sens. Cette souffrance, elle a comme sens, si vous voulez, de permettre à Hachem de réaliser sa promesse. Nous sommes dans la position, nous, les Bnei Israël, dans la position de permettre à Hachem de réaliser ce qu'il a promis. On a vu quelque chose comme ça dans le Shiur sur le Der Hachem, que les Bnei Israël, ils doivent permettre à Hachem de faire ce qu'il a tellement envie de faire. Il a envie de nous donner, et nous, on doit se conduire de telle sorte qu'il ait envie de, qu'il puisse vraiment réaliser cela. Donc, on est en position de permettre à Hachem de faire ce qu'il voulait faire. Il veut nous donner un grand butin, mais d'une certaine manière, quelque part, ça ne se présente pas. C'est-à-dire... peut-être qu'on ne le mérite pas, ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il va nous donner la possibilité d'obtenir ce butin, et donc, quelque part, la souffrance supplémentaire, elle prend du sens. Avant, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi les Égyptiens avaient-ils le droit de nous infliger plus que ce que Hachem avait dit déjà à Abraham qu'ils allaient nous faire. D'accord ? C'est en plus. De quel droit il y a quand même une justice dans le monde. Alors la justice, c'est ça. De cette manière-là, ça donne un sens à cette souffrance supplémentaire. Tout ça, c'est joli, c'est bien, mais moi, je ne me sens pas encore très à l'aise avec ça. Oh bon, avec cet argent, non, il y a tellement d'or et d'argent que Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, tu sais, s'ils ont fait le veau d'or, c'est parce que tu leur as donné trop d'argent, trop d'or. Au Beth Amikdash, au Mishkan. Mais il y en a plus qu'il faut, puisque, comme dit Moshe Rabbeinu, s'ils n'avaient pas l'or, ils n'auraient pas fait le veau d'or. C'est assez terrible comme argument. Pardon ? Oui, ça laisse un libre arbitre, bien sûr, mais à la limite, ils auraient pu faire autre chose qui ne nécessitait pas de l'or et qui aurait été aussi une manifestation de quasi-idolâtrie, parce que le veau d'or, ce n'est pas vraiment de l'idolâtrie. Si le veau avait été en carton-pâte, c'était la même chose, hein, s'il l'avait... Peu importe. Avec ou sans peinture dorée dessus.
Ça veut dire que l'or et l'argent ont un prix aux yeux de la Kadosh
Baruch Hu. Un prix pour les hommes, oui. C'est comme les hommes donnent une grande valeur à ces métaux-là, d'accord ? Alors, Hachem valide un cadeau en or. Plus qu'un cadeau en cuivre ou en carton-pâte. Et...
C'est difficile à admettre, on se le dit, et d'autre part, le butin, ça fait bizarre. Enfin, je veux dire, ça... C'est comme si on...
Hachem a décidé de valider, il faut peut-être le dire comme ça. Hachem va valider la souffrance comme paiement de l'or. C'est-à-dire que le butin qu'il nous a promis, quelque part, nous l'avons. Ce butin est un salaire plutôt qu'un cadeau. Alors, si on le dit comme ça, alors, si vous voulez, on retombe un peu sur ses pieds, mais bon. Parce que on sait bien que le vrai don, c'est un don qui n'écrase pas celui qui le reçoit. Et le meilleur moyen de ne pas écraser, ça se dit sur ce, on appelle ça le pain de la honte. D'accord, quelque chose qu'on donne à quelqu'un, donner un morceau de pain, ce pain, il a faim, alors il va pouvoir manger, mais en même temps, ça lui fait honte de devoir manger un pain qu'il n'a pas, qu'il a reçu en cadeau, en quelque sorte. Et donc, ça s'appelle, l'expression elle est en araméen, Naamad Kisoufa, on a déjà parlé souvent de cela, c'est-à-dire toute l'histoire de faire en sorte que ça se présente comme un salaire, c'est pour que les Bnei Israël n'aient pas honte de ce qu'Hachem va leur donner. Et donc là, si on veut, on est arrivé quand même petit à petit, grâce à vos questions, on est arrivé à dire que finalement ce butin, il a la qualité de ne pas être un cadeau. C'est un butin qu'on a construit nous-mêmes par notre souffrance. Donc si vous voulez, on pourrait dire... C'est le butin qui a la forme la plus élégante ou la moins... celle qui ne fait pas honte, en quelque sorte. Bon, ça c'est déjà c'est un progrès. On a gagné un petit peu quelque chose là, mais... Bon, c'est... Bien. Pardon ?
Plus que le butin, l'Égyptien est d'accord aux Bnei Israël le droit d'emprunter.
Non, emprunter, on a le droit d'emprunter. À condition de rendre.
Vous pouvez imaginer qu'on n'a pas.
Quand quelqu'un vole un objet, quand la personne n'est pas grande, on peut l'emprunter s'il est dans sa maison.
Répétez.
Quand quelqu'un vole un objet qui nous appartient, qui est dans une maison, on ne peut pas.
Est-ce qu'on peut faire justice soi-même et aller le chercher, vous voulez dire ?
On peut demander de l'emprunter. On peut l'emprunter. Non, il n'y a pas une forme de justice comme ça.
C'est-à-dire se faire justice soi-même. Soi-disant, vous allez récupérer. Ça, je n'étais pas très clair. En plus, je ne pense pas que ce soit les. On ne peut pas dire non plus que cet or et cet argent des Égyptiens, c'est quelque chose qu'ils ont et qui en fait nous appartient, au fond. C'est, même si... Non, c'est pas, je ne pense pas que ce soit clair comme ça.
Donc, ce qui nous vient ici, c'est la notion d'emprunt.
Pardon ?
Si on avait demandé ce qui nous vient ici, c'est la notion d'emprunt.
Si on avait demandé le don, donnez-nous.
Si on avait demandé, on n'aurait pas...
Non, il n'y aurait pas eu de problème aussi gros, c'est juste qu'on aurait été, quand vous empruntez, quand vous demandez un don, c'est pas glorieux, c'est tout. Mais l'emprunt sans rembourser, ça c'est un problème de vol. Mais le problème du vol, disons, on l'a plus ou moins résolu avec l'argument du jeune Rav, en fait, là-bas, que ça correspond au... Ce problème-là, ça me dérange pas tellement. Ça me dérange au départ l'idée de, après qu'on explique, bon, mais ça, il s'avère que c'était ça, etc. Bon, c'est quand même une espèce d'explication après coup, quoi. Vous faites quelque chose de qui n'est pas bien, et après vous expliquez que bon, mais c'est pas si pas bien que ça, bon, parce que c'est bon. Oui. C'est pas, si vous voulez, on a l'impression, si c'est un être humain qui faisait cette chose-là, bon. Surtout s'il a faim, etc., c'est Jean Valjean, on va l'expliquer, d'accord. Mais si c'est Hachem qui ne trouve pas d'autres moyens, si on veut parler comme ça, Bon, c'est, on va parler comme ça, mais comme s'il n'avait pas d'autres moyens. Mais maintenant, avec ce qu'on a dit, ça c'est un peu mieux, quoi. Mais bon, tout ça, c'est nous qui l'avons dit. Hein, c'est, tant que c'est pas encore écrit, tant que vous l'avez pas encore écrit quelque part, dans un midrash, ça fera le midrash d'ici, mais okay, c'est possible. Si quelqu'un a un don d'écriture, vous pouvez écrire. Bon, alors sur le fait que effectivement les Bnei Israël ils vont bénéficier de cette dixième plaie qui va être le déclenchement de la libération. Donc, après Rocher, donc Paro ne renvoie pas les Bnei Israël, et on est à ce fameux chapitre Yudbet. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim. Hashem parle à Moshe et à Aaron, on est encore en Égypte. Et il leur dit, Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem le chodshi hashana. Il leur dit voilà, ce mois-là, ce sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire, on avait un calendrier qui commençait en automne. D'accord ? En ticherie, si vous voulez. Donc, on allait. Ce calendrier-là, il commençait par l'hiver, et il allait vers l'été. D'accord ? Hiver, printemps, été. Ça, c'était on commençait en automne, quoi, et on va vers l'hiver, printemps, été. Donc, ça correspondait au jour tels que nous les vivons aujourd'hui. D'accord ? Pour nous, une journée commence avec le coucher du soleil, on commence la nouvelle journée. Cet après-midi, à 5h30, le soleil s'est couché, et le Yom Chamishi, le jeudi, si vous voulez, a commencé, d'accord ? Et il va aller jusqu'au coucher du soleil de demain après-midi. Et le Shabbat, par exemple, on va commencer par le kiddush du vendredi soir. On va commencer par le soir et on va aller vers la lumière. On commence par c'est un jour qui va vers la lumière. Et voilà que maintenant on nous donne un nouveau calendrier. Les mois sont les mêmes mois puisque en fait ce sont des mois lunaires, donc on peut pas changer. La lune, elle n'a pas changé de trajectoire. Mais on va décider que le premier mois, ce serait le mois de Nissan, c'est-à-dire on va commencer au printemps. Au lieu de commencer en automne, on va commencer au printemps. Donc on va avoir le printemps, l'été, et on va vers l'hiver. C'est-à-dire, ce serait une journée qui commence le matin et qui va vers la nuit. Ça, c'est la journée telle qu'elle se présente au Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, la journée commence le matin et elle se termine le lendemain matin. Donc, on va vers la nuit. Effectivement, les korbanot, on peut les apporter seulement le matin. Le matin, on ouvre le Beth Amikdash, on peut apporter des sacrifices. et on fait les sacrifices durant la journée, puis ensuite, la viande qui doit griller ou les choses qui doivent être brûlées vont brûler, y compris toute la nuit qui va suivre. Parce que là, toute la nuit en question appartient encore au même jour, à la même journée, si vous voulez. Si vous voulez, est-ce qu'une journée, c'est diurne, nocturne, ou nocturne, diurne? Donc là, voilà, comme je vous dis, voilà, ça va changer. On va commencer, on va maintenant se repérer avec un nouveau calendrier. Et c'est un calendrier dans lequel, par exemple, par la suite, les fêtes, elles vont se dérouler. Ça va être d'abord Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors que dans le calendrier ancien, on avait d'abord Sukkot, et après Pessah, et après Shavuot. Donc d'abord, Hachem nous donne une mitzvah. Dabrou el kol adat Israël, les morts, bachodesh hazeh, ve'esan la chodesh hazeh, ve'ikru lahem, ish, c'est le vetavot, c'est la bait. Voilà, une mitzvah qui nous est donnée, qui est de mettre de côté un agneau qui va servir de korban pesach. Mais la première mitzvah, elle est là, achodesh hazeh lachem, c'est-à-dire, vous avez une mitzvah qui consiste à sanctifier le premier jour du mois c'est-à-dire c'est vous, Bnei Israël qui allez décider quand commence le mois vous allez envoyer des observateurs qui vont regarder vont observer le ciel et qui vont dire quand ils auront vu le tout début du croissant lunaire, tout début de, enfin la toute première lune, si vous voulez, le début de la lune, à ce moment-là, ils vont se déplacer, ils vont aller témoigner devant le Sanhedrin à Yerushalayim, en disant, nous avons vu la nouvelle lune, les Chachamim vont examiner leur témoignage, ils vont vérifier qu'ils n'ont pas confondu ce mini croissant de lune avec un joli petit nuage, etc. Comme eux, ils savaient calculer de toute manière la nouvelle lune. Donc ils pouvaient savoir si c'est possible qu'ils l'aient vue. Et si c'était possible, alors le chef du tribunal, du Sanhedrin, va déclarer, je déclare le nouveau mois commencé. Et tant qu'il n'avait pas déclaré, le nouveau mois n'était pas commencé. Rosh Chodesh n'est que la conséquence d'une déclaration des Bnei Israël. Donc c'est les Bnei Israël qui décident quand commence le mois. Alors, pour les autres peuples, c'est une folie, quoi. D'accord? C'est une forme de maîtrise du temps. Je vous rappelle que par la suite, on aura toutes sortes de fêtes. Enfin, prenons Pessah ou Sukkot, sont définis par une certaine date dans le mois. Bon, la fête, c'est le 15 du mois. Mais le 15 du mois, qui est-ce qui décide que ce sera le 15? Celui qui aura dit que le mois est commencé. Donc, les fêtes qui sont un rendez-vous, un moed, c'est un rendez-vous avec Hachem, on l'a déjà dit beaucoup de fois. D'accord? C'est un rendez-vous dont la date est fixée par Hachem, mais ce sont les Bnei Israël qui fixent la date. C'est eux qui vont dire quand c'est le 15. Donc, les rendez-vous avec Hachem ne sont pas des rendez-vous qui sont fixés unilatéralement par Hachem, mais c'est des rendez-vous qui sont fixés par les deux. À la fois par les Bnei Israël, qui décident quand le mois commence, quand sera le premier jour du mois, et puis quand ils ont défini quand sera le premier jour, alors le 15e jour du mois, il y aura le rendez-vous avec Hachem. Ça sera Sukkot, si vous voulez. C'est le mois de Tishri, ça sera Sukkot. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire une forme de maîtrise du temps.
maîtrise le temps. Le temps calendaire, en tout cas, on le maîtrise. On ne maîtrise pas le cycle du Shabbat, parce que ça, c'est, les jours se défilent, et tous les septièmes jours, c'est Shabbat, ça ne dépend pas des Bnei Israël. Et c'est pour ça que nous, dans la tfila, dans la prière, Yom Tov, on ne dit pas comme Shabbat, Mekadesh à Shabbat, on ne dit pas Mekadesh Yom Tov, mais on dit Mekadesh Israël et Yom Tov. Enfin, c'est Mekadesh Israël ve'azmanim, les temps, bon, et pourquoi? D'accord? Pourquoi? Parce que Hachem sanctifie Israël, qui à son tour sanctifie le temps. Alors, cette mitzvah-là, le texte commence, ce texte qui va dire à Chodesh Hazelachem, ce texte, il est précédé, c'est le deuxième verset, le premier verset, c'est Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Be'eretz Mitzrayim. On est en Égypte. Ça veut dire que la première mitzvah que les Bnei Israël reçoivent, ils sont encore en Égypte. S'ils sont encore en Égypte, c'est qu'ils sont encore esclaves de Paro. Puisque quand Paro va les libérer sur l'ordre de Moshe, bon, ils vont sortir d'Égypte. Donc si on dit qu'ils sont en Égypte, ça veut dire qu'ils sont encore, formellement en tout cas, esclaves. Et donc ça, d'une certaine manière, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est au moins quelqu'un qui n'est pas maître de son temps. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire ce que le maître va lui dire de faire. Or, on donne au Bnei Israël une mitzvah de maîtrise du temps. On donne à ces esclaves qui ne sont pas maîtres de leur temps, la maîtrise du temps.
Depuis un an, ils ne
faisaient plus rien. Non, ils ne travaillaient plus, mais ils étaient esclaves encore. Et puis tout de suite, voilà, une fois qu'on nous a donné cette première mitzvah, on nous en donne une autre. Vous allez mettre de côté un agneau. Vous allez l'attacher au montant du lit. Et pendant 4 jours, ça vous allez faire ça le 10 du mois. Et pendant 4 jours, vous allez observer l'animal pour voir s'il n'a pas de défaut, etc. Et puis en plus, pendant 4 jours, c'est une vraie provoque contre les Égyptiens. Les Égyptiens, ils vont demander, mais qu'est-ce que tu fais avec un agneau attaché au montant du lit? On va faire un méchoui. Vous pouvez imaginer que quand vous êtes en Inde, vous attachez une vache, c'est un peu plus compliqué, vous attachez une vache au montant de votre lit, et quand les hindous vous demandent ce que vous allez faire avec la vache, vous lui dites, ben on va la sacrifier, vous finissez par la phrase. Et alors on nous donne cette mitzvah de Korban Pessah. Dire, voilà, le 14, dans la journée, vous allez en faire la shrita, et puis ensuite, vous prendrez le sang, et ce sang, vous allez en badigeonner les poteaux et les linteaux de vos maisons, à l'intérieur des maisons, pour que vous sachiez pourquoi vous êtes épargnés, et la nuit, on va manger la chair de cet agneau, grillé, on va pas en faire. Vous allez manger au matzot al morim yochlu, et vous le mangerez avec des matzot et des herbes amères. Ils mangent ça avant de sortir d'Égypte. Donc il y avait déjà des matzot avant de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Ok. On a compris. D'accord ? Quand on va dire que les matzot, ce sont les matzot parce que la pâte, elle n'a pas eu le temps de monter, mais ils étaient habitués à manger les matzot. Ils en ont mangé avant de partir. Ça ne veut pas dire que la pâte a... C'est vrai, la pâte, elle n'a pas eu le temps de monter, mais... Bon. Et puis, on doit le manger grillé, etc. Il y a les dinim, dont on a déjà parlé souvent, sur lesquels je passe pour l'instant. Et Hachem dit, voilà, vous allez manger ça quasiment sur le pouce, pratiquement, avec... En partance. Et moi, je vavarti beretz Mitzrayim balayla azé. Et moi, dit Hachem, je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit-là. Vehiketi chol bechor, je frapperai tout premier-né beretz Mitzrayim. Et me Adam vead behema, les humains, les animaux, ou bechol Elohim Mitzrayim et ses shvatim. Et je détruirai toutes les idoles égyptiennes. Ani Hachem. Vous pourriez dire Ani Hachem, de nouveau tout le temps la même chose. Quand Hachem dit, il dit Ani Hachem, ça veut dire, on peut me faire confiance. Seulement là, Rashi dit, Ani be'atzmi velo al yedei shliach. Là, vous entendez la moitié de la Haggadah. D'accord? Qui est-ce qui va Ani velo shaliach? Moi et pas un shaliach. On n'est pas sorti d'Égypte avec un envoyé, etc. C'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est Hachem qui frappe les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens. Et parce que vous avez mis ce sang en signe sur vos maisons, alors je verrai le sang, ou je sauterai par-dessus ces maisons, vous n'aurez rien à craindre, il n'y aura pas de destruction. Quand je frapperai l'Égypte. Alors, il y a un petit problème, c'est que le verset dit « Veraïti est Adam ». Je verrai le sang. Ce que ça veut dire, Hachem, il a besoin de voir le sang pour ce qui se passe, pour savoir ce qui se passe. Rashi dit « Akol galoui lefanav ». Tout est dévoilé devant Hachem. Hachem sait tout ce qui se passe. Alors comment il faut expliquer « je verrai le sang et comme ça je passerai par-dessus les maisons ?» Je passe au vert des maisons, au-dessus des maisons. « Ela amar HaKadosh Baruch Hu, noten ani et enai lirot » Je vais regarder. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais prêter attention au fait que « She'atem asukim b'mitzvotai » que vous êtes occupé à faire mes commandements, ce que je vous ai dit de faire, et à cause de cela, poseach ani alechem. C'est la raison pour laquelle je passerai par-dessus vous. Ce n'est pas parce qu'il y a du sang. Le sang, d'accord, je vois que vous avez mis du sang, donc ça veut dire, vous faites ce que je vous ai demandé de faire. C'est-à-dire, vous vous mettez dans la situation de savoir pourquoi vous êtes épargné. Vous êtes épargné parce que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire. Et je regarde, je vérifie que... Enfin, c'est-à-dire, c'est nous qui devons savoir. Hachem va passer par-dessus, pas pour nos beaux yeux, mais parce qu'on est occupé à faire sa mitzvah. C'est pas ce qu'on a fait. Atem asukim, vous êtes occupé. D'ailleurs, on a l'impression que Hachem passe, quand les Bnei Israël sont en train de badigeonner, ou bien ils sont en train de manger le korban tel que il leur a été prescrit de le manger. Ils sont en train de le manger sur le pouce, disons, avec le bâton à la main, la ceinture au rein, là, comme on le chante. Oui. Et donc, il n'y aura pas de dégâts. Ce jour-là, il sera le Zikaron. Ce jour-là sera un jour de souvenir, Rachidi, le Dorot. Pour toutes les générations. Vechagotem oto, et vous le fêterez, ce jour qui est pour vous un jour de souvenir, dit Rashi, ata chogego, tu vas en faire une fête. Et Rashi dit,
ועדיין לא שמענו איזהו יום הזיכרון. תלמוד לומר, זכור את היום הזה אשר יצאתם, למדנו שיום היציאה הוא יום של זיכרון, ואיזה יום יצאו? תלמוד לומר, ממחרת הפסח יצאו. Le lendemain du Pessah, ils sont sortis. Ve'omer, Yom Tetvav Benissan, ou Shel Yom Tov. Le Yom Tov, ce sera le 15 Nissan. Le 14, ils ont fait la Shrita, c'est toute la procédure. Share Lel Tetvav, Achlu et Pessah. Pendant la nuit du 15, donc la nuit du 14 au 15, ils ont mangé le Korban Pessah. Ve'la Boker, et le matin, Yatsu, ils sont sortis de Mitzrayim. Donc le jour de fête, ce sera ce jour-là, le 15 Nissan. Le 15 Nissan qui a commencé à la nuit, d'accord ? Donc quand on a mangé la nuit, c'était déjà la nuit du 15. Ce jour-là, c'est le jour de la fête, de Pessah. Voilà, excusez-moi, on a dépassé les bornes. On s'arrête là. Je répète...